France Culture.
Et c'est reparti pour les midis. Tout à l'heure à 13h, je recevrai la plasticienne Bouchra Khalili. Mais tout de suite, je reçois Marie Sorbier, qui est chez elle ici.
Bonjour Marie. La 35e édition du Festival international de géographie de Saint-Dié des Vosges vient de commencer. Son objectif, faire connaître la géographie, toujours moins considérée que l'histoire, avec pas moins de 300 intervenants réunis autour d'un thème cette année, le pouvoir et d'un pays invité, l'Indonésie. Parmi le très riche programme, une problématique a attiré mon attention, les capitales qui se déplacent, oui, et c'est le dossier du Point Culture. Franck Tétard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe, vous êtes également dans la direction scientifique du Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges qui se tient ce week-end. Et parmi les nombreuses rencontres qui sont organisées, une à laquelle vous participez s'intitule « Quand les capitales déménagent ». Vous avez d'ailleurs coécrit un atlas historique des capitales déplacées sorti chez Autrement en juin dernier. Quelles sont les principales raisons qui font qu'une capitale se déplace ?
Alors, c'est une bonne question. Il y a en gros trois raisons principales dans les changements de capitale. D'abord, c'est vraiment cette idée de s'inventer un futur, de s'inscrire dans une rupture pour aller de l'avant. Et on voit souvent que c'est le cas pour les États qui se créent ou qui vont devenir indépendants, notamment après la colonisation. Par exemple, on peut citer Abidjan qui va choisir pour montrer que la Côte d'Ivoire entre dans la modernité et veut s'inscrire dans une histoire africaine, va créer Yamoussoukro, par exemple. Et puis, on voit cette volonté d'entrer dans la modernité. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième, c'est souvent une volonté de se recentrer la capitale parce qu'elle est un peu en marge, elle est éloignée des populations, et donc on va chercher à la mettre au centre, ou on va chercher à trouver un lieu qui soit plus neutre parce qu'il y a des villes qui sont rivales. On peut penser notamment au Canada ou en Australie, où la rivalité des villes va conduire finalement à un moment de l'histoire de porter le choix sur une ville plus consensuelle, que ce soit Ottawa dans un cas ou Canberra pour mettre fin à la rivalité entre Sydney et Melbourne. Donc voilà les deux raisons je vais dire liées à cette notion de construction de l'État, de la symbolique de l'État. La troisième raison, elle est un peu plus pragmatique, c'est écarter un risque. Et on voit aujourd'hui, et je prendrai l'exemple de la capitale indonésienne, qui, en raison des risques naturels, décide de déménager. Vous avez aussi des risques politiques qu'il faut éviter ou contourner. Et là, on voit des villes qui vont déménager. Et puis après, il y a les déménagements qui sont liés à un risque, à une contrainte qui peut être la guerre. Et là, on voit des déménagements qui sont finalement des déménagements provisoires où les États vont changer de lieu parce qu'il y a un conflit ou la guerre sur leur territoire.
Alors la capitale, c'est le siège du pouvoir. Est-ce que changer de lieu modifie aussi la relation que les habitants du pays ont avec le pouvoir ?
Alors ça peut être le cas. Ça peut être le cas d'abord parce qu'effectivement, comme vous le dites, c'est un vrai lieu de pouvoir, mais il y a une symbolique. Il y a aussi, et justement, quand il y a des recentrages de la capitale, il y a une volonté de promouvoir l'unité nationale. C'est aujourd'hui aussi une des ambitions de la nouvelle capitale indonésienne, de se placer plus au centre. On est dans un archipel de 15 000 et quelques îles. Et donc là, il y a une volonté de centralité pour renforcer cette unité nationale, alors qu'on a une nation qui est divisée, puisqu'il y a des minorités, notamment religieuses. On l'oublie souvent, au milieu de cet archipel majoritairement musulman, on a des minorités chrétiennes, mais aussi des minorités qui sont hindouistes ou bouddhistes. Donc cette volonté-là est très importante. Et on va aussi, parce qu'on s'éloigne aussi parfois du milieu des affaires économiques, avoir véritablement un lieu où s'exerce uniquement le pouvoir exécutif et législatif, voire également tout ce qui est lié donc au pouvoir véritablement administratif.
Et historiquement, est-ce que le déplacement d'une capitale a toujours été bénéfique ? Est-ce que c'est toujours une bonne idée ?
Non, il y a des ratés. Il y a des ratés. C'est d'ailleurs des aspects qu'on aborde dans notre dernière partie. Il y a soit des annonces qui ont été faites avec un déplacement de capital, où finalement, ça n'a pas vraiment lieu parce que les fonctionnaires ne veulent pas bouger, parce que finalement il y a tellement de pouvoir à côté du pouvoir politique qui est concentré dans un même lieu que le déménagement dans un nouveau lieu finalement s'avère ne pas être efficace. Et puis il y a aussi quelquefois des projets qui ne voient pas le jour, soit parce qu'ils ne sont pas financés, soit parce que il y a eu une volonté à un moment et puis la personne qui avait fait cette décision n'est plus là.
Et quelles seraient selon vous les prochaines capitales susceptibles de se déplacer? On peut prévoir ça?
Alors c'est un peu difficile à savoir. Je crois qu'on a essayé nous de recenser les lieux qui avaient déjà fait cela. On n'a pas vu véritablement de projets, en tout cas en cours, qu'on n'a pas cité dans l'ouvrage. Il y a quelquefois des idées comme ça qui sortent un peu du chapeau. Il y a quelques mois ou une petite année environ, il y avait un député qui avait dit qu'il serait peut-être intéressant de déplacer la capitale parisienne à la Défense pour pouvoir vendre l'immobilier parisien et un petit peu refournir nos caisses qui ont bien besoin pour boucler le budget. Alors, est-on dans le registre de la plaisanterie ou faut-il voir cette idée sérieusement? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelquefois des projets qui sont un peu farfelus, mais qui émergent et ça peut arriver quand même.
Un mot peut-être pour finir cet entretien, Franck Tétard, sur le festival international qui va se tenir ce week-end à Saint-Dié-des-Vosges. À quoi ça sert un festival de géographie?
Un festival de géographie, ça sert quelque part à montrer que la géographie, c'est du quotidien et ça sert aussi à comprendre le monde qui nous entoure et que la réalité géographique, finalement, c'est quelque chose auquel on est confronté lorsqu'on s'intéresse à l'environnement, lorsqu'on s'intéresse à l'urbain et aux villes, lorsqu'on s'intéresse aux problématiques des mobilités, lorsqu'on s'intéresse, et là, cette année, au pouvoir et donc les relations, finalement, des individus au pouvoir et des espaces au pouvoir. Et on peut regarder ça avec un œil de géographe qui ne sera pas tout à fait le même œil que celui du politiste ou de l'économiste. Donc c'est ça qu'on apporte avec ce festival qui permet de voir la vie à travers l'œil du géographe.
Alors vous l'avez dit, en effet, le thème c'est le pouvoir et le pays invité, l'Indonésie.
Oui, donc c'est un pays qu'on connaît peu en Europe et en France, alors que c'est un pays qui s'inscrit comme une puissance émergente. D'abord parce que démographiquement, c'est plus de 200 millions d'habitants. C'est un État avec une croissance économique importante, avec des compétences qui est aussi placée, j'ai envie de dire, au sud de la mer de Chine, donc à proximité de la Chine, mais aussi d'une autre puissance régionale qui est l'Australie, donc pas loin de l'Inde, avec ce détroit de Malacca qui voit passer presque les trois quarts du commerce mondial. Donc c'est un lieu quand même assez stratégique et ce pays s'inscrit dans une dynamique économique et politique en pleine évolution depuis ces dernières années et qui du coup est un petit peu, j'ai envie de dire, convoité et par les puissances européennes et asiatiques et américaines pour savoir un peu dans quel camp il va se placer. C'est vraiment cet enjeu-là aussi qu'on voit à travers l'Indonésie.
Bien, merci beaucoup. On mettra le programme du Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges sur la page du Point Culture. Merci Franck Tétard.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, la photographe Françoise Huguier vient de rejoindre l'Académie des Beaux-Arts.
Oui, la cérémonie d'installation de Françoise Huguier au fauteuil numéro 5 de la section photographie de l'Académie des Beaux-Arts s'est déroulée ce mercredi sous la coupole de l'Institut de France à Paris. Connue notamment pour ses séries de photographies du continent africain, Françoise Huguier n'a jamais cessé de parcourir le monde pour capturer des appartements communautaires de Saint-Pétersbourg, la vie urbaine de Séoul ou encore les coulisses de la haute couture. Introduite par un discours de la réalisatrice Colline Serrault, Françoise Huguier devient la cinquième photographe de l'Académie aux côtés de Yann Arthus-Bertrand, Jean Gomi, Dominique Isserman et Valérie Belin.
Et pour finir, Marie, une idée de sortie au cinéma pour ce week-end.
Oui, vient de sortir en salle un documentaire hors norme. Ça s'appelle Soundtrack to a coup d'État du réalisateur belge Johan Grimont-Pré. Et une fois n'est pas coutume, l'immense intérêt du film ne réside pas tant dans son sujet, l'assassinat de Patrice Lumumba, le premier ministre du Congo, en 1961, mais dans sa forme. C'est un collage fou d'images d'archives, d'extraits de différents médias, d'entretiens. Le fil rouge est ici entièrement musical et le travail sonore est une dentelle parfaitement maîtrisée. Non seulement la bande originale du film est une suite de morceaux de jazz, mais on y apprend que ces chanteurs et musiciens ont été utilisés par la CIA pour ce fameux coup d'État. Par un art du montage consommé, le film devient lui-même une partition de jazz, libre, déroutante et d'une grande beauté, à voir donc de toute urgence.
Merci Marie, et on se retrouve lundi pour de nouvelles actualités culturelles.
À lundi, bon week-end.
Bon week-end, en attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.